Vous écoutez
RMC.
Excellente journée à tous, merci d'avoir choisi RMC Radio, RMC Story Télé. Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. À la une ce matin, le calendrier judiciaire de Nicolas Sarkozy. L'ancien président risque une nouvelle condamnation de prison. Réponse aujourd'hui de la Cour de cassation. Vous verrez que cette fois, on parle de l'affaire Big Malion. Le casse du Louvre aurait-il pu être évité? Un audit alerté dès 2018 sur la vulnérabilité du balcon par lequel sont passés les malfrats. Et une nouvelle affaire d'ingérence russe. Quatre espions, les espions présumés, mis en examen hier soir à Paris.
À peine sorti de prison, Nicolas Sarkozy est sous le coup d'une deuxième condamnation de prison définitive.
Ce serait effectivement la deuxième, lui qui a déjà été condamné définitivement dans l'affaire dite des écoutes. Guillaume Bier, chef du service pour les justices à RMC. Cette fois, c'est la Cour de cassation qui va rendre dans l'après-midi sa décision dans l'affaire Big Malion. L'affaire du financement présumé illégal de sa campagne présidentielle de 2012, déjà condamné en première instance, puis en appel. On va savoir cet après-midi si cette peine est définitive.
Oui, une peine d'un an de prison, dont 6 mois avec sursis pour financement illégal de sa campagne 2012. Plus de 42 millions d'euros de dépenses, soit près de 2 fois le plafond autorisé. Un énorme dépassement payé par l'UMP à l'époque à travers des conventions fictives. Nicolas Sarkozy lui a toujours contesté toute responsabilité dans cette explosion de ses dépenses de campagne. Mais tout à l'heure, la Cour de cassation, comme toujours, ne se prononcera pas sur le fond de l'affaire. Elle dira si le droit a bien été respecté lors de la condamnation en appel. Si tel est le cas, eh bien l'ancien président ne retournera pas en prison. Sa peine sera automatiquement aménagée, par exemple sous bracelet électronique à domicile, dont il pourra demander rapidement la levée puisqu'il a désormais plus de 70 ans.
Le casse du Louvre, le mois dernier, aurait-il pu être évité? Eh bien, la réponse est oui. Maintenant que le quatrième suspect du commando a été arrêté, le journal Le Monde révèle, Pierre Bazin pour RMC, qu'un audit alerté dès 2018 sur la vulnérabilité donc du balcon par lequel sont passés les malfrats.
Oui, dans ce rapport commandé en 2018 aux experts de Van Cleef & Arpels, que nos confrères du Monde ont pu consulter, les auteurs mentionnent très précisément que le balcon utilisé par les cambrioleurs il y a un mois est un point de vulnérabilité du musée. Ils vont même jusqu'à préciser que l'utilisation d'un monte-charge faciliterait l'accès au balcon et l'entrée dans le Louvre. En 2018, les auteurs du rapport détaillaient donc précisément sur 2 pages le scénario qui allait être utilisé 7 ans plus tard par les cambrioleurs. Il est même précisé que la zone exploitée par les voleurs est l'une des plus vulnérables, notamment parce qu'elle n'est pas totalement couverte par les caméras de sécurité. Un rapport qui interpelle donc et que l'actuelle direction du Louvre n'aurait découvert qu'après le vol des bijoux.
Il y a cette nouvelle affaire d'ingérence russe à Paris. Pourquoi? Parce que 4 personnes ont été mises en examen et 3 d'entre elles viennent d'ailleurs de passer une première nuit en prison. Romain Houk pour RMC, pourquoi? Pour des soupçons d'ingérence et d'espionnage au profit de Moscou.
Oui, l'une de ces personnes est un Russe de 40 ans filmé par des caméras de vidéosurveillance en train de coller des affiches à la gloire de la Russie sur l'Arc de Triomphe. C'était début septembre, un acte qui va mettre en lumière auprès des enquêteurs toute une nébuleuse pro-russe soupçonnée d'espionnage, car l'homme aux affiches va, juste après les avoir collées, en rendre compte à Anna Novikova, franco-russe, originaire de Sibérie. Elle vit à Pau. Elle est dans le viseur des services de renseignement depuis au moins le début de l'année. Pourquoi? Eh bien, cette femme est la fondatrice de SOS Donbass, une association présentée comme une organisation d'aide humanitaire qui collecte des fonds pour aider cette région de l'Est de l'Ukraine, ravagée par la guerre, mais qui serait en fait, selon les renseignements, une couverture à ses activités d'espionnage. Anna Novikova aurait approché des cadres d'entreprises françaises pour obtenir des renseignements économiques susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la nation. C'est l'objet d'une enquête préliminaire ouverte il y a plusieurs mois. 2 autres membres de cette association ont été mis en examen dans cette énième affaire de possible ingérence russe.
Concernant le sort de la guerre en Ukraine, le Kremlin confirme ce matin la visite prévue la semaine prochaine à Moscou de l'émissaire américain qui a rédigé le plan de paix. Sera peut-être même en compagnie du gendre de Donald Trump, gendre qui avait négocié le cessez-le-feu à Gaza. Une des informations de la nuit, c'est le géant de l'informatique HP qui annonce la suppression de 4 à 6 000 emplois dans les prochaines années partout dans le monde, des employés qui seront remplacés par l'intelligence artificielle. C'est la première fois qu'une aussi grande entreprise fait publiquement le lien entre réduction du personnel et intelligence artificielle. L'inquiétude à nouveau d'ailleurs des salariés d'Auchan. 1 an seulement après le plan social qui les a déjà concernés, eh bien le distributeur en difficulté à la tête d'Auchan annonce son projet de changement de bannière. Près de 300 supermarchés qui viendraient des Intermarchés ou des Netto. Plus de 11 000 salariés sont concernés.
Et puis c'est la drogue facile d'accès, celle qu'on trouve dans les rayons de supermarchés. RMC a enquêté sur les ravages et la prise en charge des consommateurs du protoxyde d'azote.
Oui, surnommé bien souvent le gaz hilarant. Inès Zeglou, c'est vous qui avez enquêté pour RMC sur les séquelles laissées sur la santé de ceux qui en consomment. Vous vous êtes rendu pour ça dans une clinique de rééducation de Mantes-la-Jolie, c'est près de Paris. Clinique qui s'occupe justement de ces consommateurs.
Oui, des consommateurs tous pris en charge par l'unité de rééducation neurologique au programme tapis roulant, escalier, exercice de mobilité, d'équilibre. Certains sont hospitalisés nuit et jour pendant des mois. Au deuxième étage de l'établissement, j'y ai par exemple rencontré un jeune homme, 22 ans seulement. Pendant 3-4 ans, il a consommé en moyenne 4 bonbottes de protoxyde de la taille d'une gourde par jour.
À ce moment-là, c'était juste pour s'amuser, quoi. J'ai commencé à ressentir des douleurs dans les jambes. Ça arrivait aux mains, au cerveau, au dos, la moelle épinière, des problèmes de mémoire, paranoïa. Je faisais du foot, mais depuis que j'ai ça, j'ai pas essayé d'en refaire, quoi. Parce que je sais très bien que je vais pas réussir à taper dans le ballon. Depuis que j'ai ça, quand même, j'ai perdu, on va dire, 2 ou 3 ans.
De ta vie.
De ma vie. Je me dis pourquoi j'ai pris ça, en fait. Faire bousiller la santé, en fait.
Et ces jeunes sont de plus en plus nombreux à séjourner dans l'établissement avec des séquelles similaires.
Oui, ils ont en moyenne 18 à 25 ans, mais il y a de plus en plus d'ados de 15 à 16 ans, constate la direction de la clinique. C'est une déferlante, me confie le docteur Khaled, spécialiste en charge de l'unité.
On constate tous, de Marseille à Lille, tous les hôpitaux sont touchés par l'accélération de ce phénomène. Et donc, relativement à ce que je voyais moi-même en 2017, c'est un cas par an, un seul cas par an. À passer à 5, 6 cas, 10 cas parfois par an, c'est une différence énorme.
Et c'est pourquoi il appelle les pouvoirs publics à faire de la prévention dans les établissements scolaires, à agir plus sévèrement. L'interdiction de vente aux mineurs ne suffit plus, dit-il. Il faut interdire totalement la vente de protoxyde.
C'était le choix de la rédaction signée Inès Zegloul ce matin sur RMC. Il y a de l'euphorie depuis hier soir à Marseille qui s'est complètement relancée en football en Ligue des Champions en battant Newcastle de 2-1 grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. On a vécu ça sur RMC. On vous retrouve d'ailleurs en direct de Marseille. Jean-Louis Tour, rédacteur en chef foot à RMC. Vous avez commenté le match et vous nous dites que c'est une victoire qui change tout.
Ah oui, elle change tout au classement d'abord. Avec 6 points à 3 matchs de la fin, l'OM peut désormais croire légitimement à une qualification en barrage. Mais cette victoire d'hier change tout, surtout dans les têtes. Car le doute qui pouvait s'emparer des têtes marseillaises pendant la première période s'est dissipé. Ils ont bien le niveau de la Ligue des Champions. Après 2 défaites contre des adversaires abordables, les joueurs devaient une revanche au public du Vélodrome. Mission accomplie grâce à une grosse force mentale symbolisée par les cadres comme Pierre-Emerick Aubameyang. Même après des occasions ratées, l'attaquant n'a pas sombré. Il a mis doublé qui restera dans les mémoires de supporters. Il faudra maintenant afficher le même visage en Belgique contre l'Entente Saint-Gilloise lors de la prochaine journée pour rendre un peu plus concret cet avenir européen.
À 21h, on verra ça d'ailleurs sur RMC. C'est Paris qui jouera contre Tottenham pour la 500e du capitaine brésilien Marquinhos. Et avant ça, à 18h45, Monaco jouera chez les Chypriotes de Paphos. Une des curiosités cette saison de la Ligue des Champions.